ensemble le chapitre 10 d'Hébreux, à partir du verset 26 jusqu'à 31. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. » C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. On va demander la bénédiction du Seigneur. Notre Dieu, nous sommes tes enfants, nous sommes assemblés ce matin pour entendre ta parole, pour t'adorer, pour chanter tes louanges, pour prier. Alors Seigneur, on te prie de répandre ta bénédiction, d'ouvrir nos cœurs, que ton esprit nous guide, nous illumine, nous éclaire à la compréhension du texte et surtout, Seigneur, à mettre en application les leçons que tu nous enseignes par ce chapitre, ce passage. Nous te demandons toutes ces choses en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, j'ai intitulé la leçon d'aujourd'hui, le sermon d'aujourd'hui, « Vous êtes solennellement avertis ». Alors, le texte, on peut le diviser en trois parties. « Vous êtes solennellement avertis sur la culpabilité de l'apostasie », les versets 26 et 27. « Vous êtes solennellement avertis sur la gravité de l'apostasie », les versets 28 et 29. Et « Vous êtes solennellement avertis sur la sévérité de l'apostasie », versets 30 et 31. Alors, on rappelle, on avait dit la semaine dernière qu'à partir du verset 18 du chapitre 10, on était dans la section d'Hébreux qui parle de choses pratiques. Alors, les choses pratiques, c'est tout simplement que Dieu a enseigné toute une série de choses à partir du chapitre 1 jusqu'à 10-18. Ce sont de la doctrine ou de l'enseignement. Mais chaque fois que Dieu nous enseigne quelque chose par sa parole, bien entendu, on se doit d'ajuster notre comportement avec les connaissances que Dieu nous a données. Alors, on est rendu dans la section pratique. On avait vu la semaine dernière le début du côté pratique de l'Épître aux Hébreux. On va continuer aujourd'hui. Donc, il s'agit de gestes concrets que l'Éternel demande aux Juifs de l'époque, des décisions à prendre, des gestes concrets à mettre en pratique. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui ont été présents depuis le début de l'exposition de l'Épître aux Hébreux, on avait mentionné qu'à l'intérieur de l'Épître aux Hébreux, il y avait cinq avertissements qui étaient placés à des endroits stratégiques. Les avertissements, Dieu nous donne des avertissements pour des raisons bien pratiques et il les place à des endroits bien précis dans l'Épître pour nous avertir de certaines choses. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les cinq avertissements avaient tous un rapport avec de la manière dont on traite les Écritures. Le premier avertissement, c'était de ne pas s'y attacher. Ça, c'est dans le chapitre 2, versets 1 à 4. Le deuxième avertissement, c'était de ne pas croire les Écritures. Donc, le problème, l'incrédulité. Ça, c'est dans le chapitre 3, versets 12 à 14. Dans le chapitre 5, versets 11, aller jusqu'à 6, 12, on avait un autre problème qui avait un rapport avec les Écritures. C'était celui de ne pas l'étudier. Donc, le problème qui est présenté par rapport à notre relation avec les Écritures, c'est la paresse. Le quatrième avertissement, c'est celui qu'on voit ce matin, chapitre 10, verset 26 jusqu'au verset 31, et c'est celui de ne pas obéir à la parole de Dieu. Donc, l'ignorance volontaire. Et il va y en avoir un autre, puisqu'on est dans les avertissements, et le cinquième, ça va être de ne pas l'écouter. Mais ce que je voudrais vous faire prendre conscience ce matin, c'est que si on prend les 5 avertissements, puis on les met un derrière de l'autre, on pourrait faire une forme d'escalier descendante. Autrement dit, si tu commences à négliger la première marche, tu vas descendre sa deuxième, puis si tu es rendu sa deuxième, puis tu négliges la deuxième, tu vas tomber sa troisième, et si tu négliges la troisième, tu vas tomber sa quatrième, et il en reste 5. C'est grave. Alors, moi, je l'ai fait vraiment, si vous voyez sur ma feuille, vraiment comme un escalier. Et c'est de voir la relation que les Écritures placent dans cet escalier-là. Donc, on le révise. Premier avertissement, c'est le détachement, de ne pas s'attacher à la parole de Dieu. Il y a des dangers pour n'importe quelle dénomination où parfois on peut mettre trop l'accent sur des expériences qui peuvent être agréables à la foule, mais on ne s'attache pas assez aux Saintes Écritures. Donc, le premier problème qui est relié dans nos rapports qu'on a avec les Saintes Écritures, c'est de ne pas s'attacher à la parole de Dieu. La deuxième, c'est de ne pas la croire. On aura beau s'y attacher, la lire toutes les fois, mais si on ne croit pas ce que Dieu nous dit par rapport au salut ou par rapport à quelque autre doctrine que ce soit, on fait encore fausse route. Et là, on descend. Ne pas s'attacher, l'incrédulité, et la troisième, la paresse, ne pas l'étudier. Ça, quelque part, je pense que je pourrais affirmer, sans crainte de trop me tromper, on est tous un peu coupables de ça. Étudier la parole de Dieu, ça implique des efforts. Ça implique qu'il faut que tu y consacres du temps. Ça implique qu'il faut que tu ailles te chercher les outils pour comprendre. Parce que la parole, c'est 1200 pages, et il faut la lire d'un couvert à l'autre. Mais étudier et lire, c'est pas la même chose. Étudier, c'est vraiment d'aller chercher le sens des Écritures et chercher à mieux la comprendre dans tout ce qu'elle dit. Et il y a des chapitres qui sont difficiles. Comme Lévitique, là, quand vous commencez à étudier le livre de Lévitique, c'est pas évident de comprendre le livre de Lévitique, et c'est pas le seul. Il y a d'autres livres à l'intérieur. Prenez l'Apocalypse, c'est pas un livre le plus facile non plus à comprendre. C'est un livre difficile. Quand un livre est difficile, ça veut pas dire qu'il est pas riche, qu'il est pas rempli d'enseignements. Au contraire, plus il est difficile, je me souviens d'avoir déjà lu une illustration, quelqu'un comparait ça à un peu, on vit dans une région minière. Si je veux briser du roc pour trouver un filon d'or, des fois il faut que j'en brise beaucoup de roc pour aller chercher juste l'or. C'est exactement la même chose. L'étude de la parole de Dieu implique des efforts, implique l'utilisation d'outils, implique de se réserver du temps pour le faire. Si on ne le fait pas, à quelque part, il y a beaucoup de livres qu'on ne comprend pas, beaucoup d'enseignements que Dieu nous donne qu'on passe complètement à côté. C'est un devoir, c'est pas quelque chose qui est laissé à notre discrétion. Si ça te tente d'étudier, étudie-la, puis si ça te tente pas, étudie-la pas. Et là, on tombe au quatrième avertissement, et c'est de ne pas l'obéir. J'aurais beau être attaché à la Bible, j'aurais beau croire ce qu'elle dit, j'aurais beau l'étudier, parce qu'il y en a qui font ça dans les universités, d'aller dans les facultés de théologie, là, puis des fois, il y en a qui vont passer des années à étudier la Bible, mais ces enseignements, ils ne le mettent pas en pratique. Ils n'obéissent pas aux commandements des Saintes Écritures. Voyez-vous, là, tu descends tout le temps d'une marche. Tu es rendu à la quatrième marche, tu es déjà rendu bas, là. Et après, la dernière, c'est de ne pas l'écouter, le refus d'entendre, qui est le problème. Alors, si tu te rends jusqu'au bout de la descente, tu vas venir un temps que la parole de Dieu, tu ne voudras même plus l'entendre parler. Le refus de l'écouter même. Parce que des fois, ça va s'adresser parfois à des chrétiens qui ont abandonné l'assemblée. Et des fois, tu les rencontres quelques années après, et tu essaies de les ramener par la parole. Ils vont dire « Je veux plus rien savoir. » Vous voyez la fameuse expression québécoise « Je veux plus rien savoir. » Ça veut dire que tu veux même pas l'entendre. Le refus d'entendre, c'est la dernière étape avant de tomber dans l'apostasie complète. Et on va définir un peu plus tantôt qu'est-ce que ça veut dire l'apostasie et un peu d'examiner est-ce que c'est possible pour un chrétien authentique d'apostasier. Alors, on va voir les différentes choses qu'on a besoin de savoir là-dessus. On va commencer par le premier point, les avertissements sévères des Écritures concernant l'apostasie, sa culpabilité. Autrement dit, quelqu'un qui tombe là-dedans, c'est pas la faute de Dieu, c'est pas la faute du voisin, c'est ta faute à toi, personnellement. Alors, on voit dans le verset 26 d'Hébreu 10, ça nous dit, « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. » Pour les Juifs de l'époque, l'apostasie, ça aurait été, après avoir entendu tout ce qui était dit depuis le début du chapitre d'Hébreu 1 jusqu'à 10-18, ça c'est l'aspect doctrinal, ça aurait été de dire, « Ben moi là, Christ, je ne veux rien savoir de lui, je retourne dans mes anciennes affaires, puis laisse-moi tranquille. » Ça, ça aurait été fait de façon consciente. Et ça dit que si quelqu'un aurait fait ça à cette époque-là, là, ça disait qu'il ne restait plus de sacrifice pour le péché. Tu commettais un péché pour lequel il n'y avait pas de sacrifice, pas de pardon possible. L'apostasie pour les gens de cette époque-là. Mais le fait de dire, car si nous péchons, le mot « si », c'est un conditionnel, ça ne veut pas dire que les Hébreux de l'époque ont tombé dans ce péché-là ou auraient pu tomber dans ce péché-là, c'était juste comme un avertissement. Si vous vous enlignez pas après tout ce que je vous ai révélé sur Christ et que vous retournez dans le judaïsme, vous commettez une faute qui est impardonnable. C'était pas une petite chose. Alors, c'est une culpabilité qui est vraiment évidente. Alors, on pourrait définir l'apostasie de la manière suivante, pour prendre une définition simple. C'est un abandon délibéré et final de la foi chrétienne. Délibéré, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, ça veut tout simplement dire que tu as réfléchi, tu as pesé le pour et le contre, puis tu as choisi volontairement d'abandonner la foi chrétienne. Et quand ça dit délibéré et final, ça veut dire que tu as pris ta décision, tu ne reviendras plus sur ta décision, ça c'est réglé. C'est un péché d'une gravité innommable. On va voir un peu les conséquences aussi pour ceux qui auraient décidé de le faire dans le temps. Le texte ne nous dit pas si les Hébreux de l'époque ont tous abandonné le judaïsme ou s'il y en a quelques-uns qui se sont entêtés. S'il y en a quelques-uns. Moi, je pense qu'ils ont dû écouter et l'avertissement est à là dans le but de dire... C'est un peu comme... J'aimais bien l'image que l'auteur, je me suis servi, utilisait. Il dit, les avertissements de la Bible... C'est comme si tu voyages, je ne sais pas si vous avez déjà vu des films des camions qui se promènent dans les montagnes, ils ont juste une petite route toute petite. Ben c'est un peu comme si nous on marchait sur ce type de route-là, et les avertissements, c'est comme si le Seigneur aurait dit, quand tu vas voir un arbre de couleur rouge qui est en forme ronde, fais très attention parce que tu peux tomber dans le précipice. C'est exactement l'équivalent qu'on pourrait dire quand Dieu nous donne un avertissement. Il faut en tenir compte. Alors, c'est vraiment l'action, l'apostasie, de s'éloigner, de déserter, de se révolter et de se séparer de la foi chrétienne de façon délibérée et finale. Alors, l'apostasie, c'est un péché volontaire, c'est un péché manifeste, donc il est vu de tout le monde, c'est un péché continuel. Parce que quand tu as pris ta décision finale, il est continuel dans le sens que une journée, le lendemain, tu vas garder ta décision, le surlendemain, tu vas regarder ta décision. Donc, c'est un péché qui est fait avec intention. C'est un péché qui est fait avec résolution. Tu es résolu, tu ne veux plus rien savoir du christianisme. Tu es obstiné, tu es rebelle et tu méprises à la fois la personne de Christ et son œuvre. C'est pas un petit péché. Alors, le péché est d'autant plus aggravé que les personnes concernées ont été éclairées spirituellement. Parce que les gens qui auraient retourné dans le judaïsme ne pouvaient pas dire « Ben là, on ne le savait pas. » Les 10 premiers chapitres, on les reviserait l'ensemble des choses qu'il leur a enseignées sur la personne de Christ. Autrement dit, il disait « Avant, vous aviez l'ombre, maintenant vous avez la réalité. Êtes-vous assez fou pour retourner à prendre l'ombre? » Alors, ça les rendait d'autant plus coupables pour deux raisons, parce qu'ils avaient reçu la connaissance de la vérité Et deuxième raison, c'est que le Seigneur, déjà dans le passage la semaine passée, le Seigneur leur avait donné des moyens de grâce pour se maintenir dans le chemin étroit et resserré. Dans la vie chrétienne, il y a les deux aspects. Dieu nous dit que de toute éternité, il nous a choisis et il nous dit qu'il va faire en sorte qu'on va demeurer jusqu'au bout du chemin. Donc, l'aspect divin du salut. Ça, c'est l'aspect que c'est Dieu qui s'en occupe. Mais cette doctrine-là s'accompagne de celle de la persévérance. La persévérance, c'est notre responsabilité humaine dans le salut. Oui, Dieu dit qu'il va préserver les siens, mais Dieu dit en même temps que ceux qu'il va préserver, ils vont utiliser les moyens de grâce que Dieu leur donne pour demeurer sur le chemin étroit et resserré. Voyez-vous, ils vont ensemble, deux doctrines jumelles. Si tu mets trop l'accent sur un côté, ça te mène dans l'erreur. Si tu mets trop l'accent sur l'autre côté, ça te mène dans l'erreur. Alors, c'est important d'avoir les deux aspects. Et c'est une culpabilité qui est irréversible parce que le texte nous dit « Il ne reste plus de sacrifice pour leur péché. » Ça veut dire que c'est un péché de nature telle que tu ne peux plus revenir après que tu as pris. Mais là, on a dit que c'était une décision finale et délibérée. Alors, ce péché n'est pas pardonnable. On lit dans Jean, 1 Jean, chapitre 5, verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je vous dis de prier. Donc, le péché contre le Saint-Esprit, c'était un peu l'équivalent du péché contre le Saint-Esprit qu'il faisait, péché impardonnable. Juste pour vous donner un exemple, dans l'Ancien Testament, que Dieu, parfois, voyait des personnes qui se disaient des Israélites, qui faisaient des erreurs monumentales et que Dieu jugeait avec une grande sévérité. On lit, par exemple, dans 1 Samuel, chapitre 3, verset 14, on a le fameux Élie, qui avait deux fils qui faisaient des choses épouvantables dans le tabernacle lui-même, des péchés vraiment graves, publics. Et on lit, il dit, « Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison, en parlant de la maison d'Élie, à perpétuité, à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. » Imaginez-vous, il était sacrificateur, il voyait ses fils faire le péché de fornication dans le sanctuaire et il ne les réprimait pas. Dieu n'a jamais dit qu'Élie n'était pas sauvé. Mais il a dit, à cause du fait que tu ne les aies pas réprimés, moi je vais juger tes fils à cause de la gravité de leur péché et à perpétuité. Il dit, c'est pourquoi je jure, verset 14, je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Alors le type de péché qu'ils avaient commis était d'une gravité telle que Dieu dit, il n'aura pas de pardon là-dessus. Il n'aura pas, non seulement pour eux, il n'aura pas pour leur postérité non plus. Est-ce qu'on mesure un peu la gravité du péché qu'ils avaient fait? Si on ne la mesure pas, on devrait allumer. Verset 27 nous parle, la première chose qu'on a vue dans le verset 26, c'est la nature de l'apostasie. La deuxième chose qu'on va regarder maintenant, c'est sa punition. Verset 27. Il nous dit, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Alors, les gens qui font ça, ils savent déjà, dès leur vie terrestre, que le jugement à venir va venir, puis que ça va être inévitable et qu'il va être un jugement d'une grave, très grave sévérité. L'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. La sévérité du jugement sera proportionnelle à la gravité de la faute. On a ça d'une façon expliquée à beaucoup d'endroits dans le Nouveau Testament où Christ dit que les fautes qu'on commet, on a toujours un jugement qui est directement proportionnel à sa gravité. Alors, le jugement sera fait par Dieu lui-même, publiquement et selon la plus stricte vérité. Les gens ne pourront pas dire, ben c'est pas ça que j'ai dit, c'est pas ça que j'ai fait. On s'ostine pas que l'Éternel, quand les gens vont se présenter devant l'Éternel, ils savent que l'Éternel ne ment jamais. Et s'il les accuse de quelque chose, c'est parce que c'est pas comme notre système de justice humaine, là. Personne ne va s'ostiner avec l'Éternel. Tout le monde va ployer le genou, mais on va reconnaître que l'Éternel, ce qu'il dit, c'est toujours vrai. Alors, ce jugement-là va avoir différentes caractéristiques inévitables. Quelqu'un pourrait pas dire, ben là, je vais avoir une seconde chance. Impartial, dans le sens que peu importe ton rang social, ta fortune, peut-être qu'il y avait parmi les Juifs croyants du 1er siècle, il y avait peut-être des gens riches et célèbres, il y avait peut-être des gens importants, qu'on dit. Le Seigneur a dit, ça compte pas, à mes yeux. C'est un jugement qui va être insupportable et inexprimable. J'aimais bien Arthur Pink qui utilise, il dit, « Aucun être humain ne peut concevoir ou décrire la sévérité quand on parle d'un feu, l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » Moi, quand j'ai lu le texte, ça m'a fait penser à Lac-Mégantic, ceux qui ont suivi un petit peu le feu, comment ça se passait, là. Il y a des gens qui ont passé. Il y a un monsieur là, qui a été sauvé par son chien. J'entendais la semaine dernière aux nouvelles. Son petit chien, en pleine nuit, il a entendu le crépitement du feu et il est venu licher le vieux monsieur qui avait, je pense, au-dessus de pas loin de 80 ans, qui se serait probablement pas réveillé. Il aurait été brûlé vif. Il dit, le chien est venu me réveiller. Et j'ai regardé dehors et j'ai vu le feu. Et il dit, ça faisait un bruit très, très ardent. Un feu de cette ardeur-là. Et j'ai sorti dehors, ça m'a brûlé la face, ça m'a brûlé le nez, ça m'a brûlé la figure. Et il a passé, lui, à plus proche que ça de mourir, là. Tu peux pas passer bien plus proche que ça. Mais quand on parle d'un feu ardent, ici, c'est de ce type de feu-là. Et Pink va loin au point de dire qu'aucun être humain est capable de concevoir la colère de Dieu contre ceux qui vont être coupables d'apostasie. On le voit, ça va être révélateur de la colère de Dieu. Ça va être révélateur de l'infamie du péché. Tu sais, des fois, un péché infâme, c'est un péché de la nature la plus laide, la plus noire, la plus ténébreuse qui peut exister. Cracher sur Christ, c'est fou, là. Ça démontre jusqu'à quel point l'être humain peut descendre dans sa folie. Et la justice que Dieu va exercer va être vraiment rigoureuse, féroce et implacable. On lit dans Isaïe 66, verset 15, « Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. » Alors, qu'est-ce que ce jugement-là va révéler de la personne de Dieu? Premièrement, son infinie justice. Deuxièmement, son infinie sainteté. Troisièmement, son infinie puissance. Ça va très certainement provoquer chez ceux qui vont recevoir ce jugement-là de la terreur, de l'horreur et une très grande consternation. Imaginez-vous les hommes quand ils vont comparaître devant Dieu, devant le grand trône blanc, qui vont recevoir leur sentence. Tout le monde va aller en enfer. Ceux qui vont se présenter, qui n'auront pas cru en Christ, vont tous aller en enfer. Mais il y en a qui vont aller en enfer plus profond que les autres. Judas, les apostats. Vu que le péché est plus grave que les autres, leur punition va être terrible. Quand on dit tout à l'heure, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. On peut reprendre quelques exemples de la sévérité des jugements divins dans l'Ancien Testament. On va en prendre deux. Nadab et Abihu, dans le livre de Lévitique, pourquoi ils ont été jugés aussi sévèrement? Avoir offert du feu étranger. Alors, à l'époque, il fallait que le souverain sacrificateur prenne du feu qui venait du brasier qui était sur l'autel d'Airain. Ça représentait les souffrances de Christ. Un feu étranger, ça voulait dire un feu qui ne venait pas du jugement de Dieu sur la victime. C'était, semble-t-il, beaucoup de commentateurs pensent qu'ils étaient entrés dans le tabernacle en état d'ébriété. C'est un péché très grave. Voici ce que l'Éternel dit qu'il leur a fait dans Lévitique chapitre 10, verset 2. « Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. » Ça, c'est l'exemple de certains jugements de Dieu dans l'Ancien Testament, à Nadab et Abihu. On peut prendre celui de Corée aussi, qui est descendu vivant dans le séjour des morts. Lui, sa femme, ses enfants et tous ses biens. On va le lire, Nombre 16, versets 30 à 33. « Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit, la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leur maison, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts. » Ça, ça veut dire l'enfer. « Et ont descendu vivants. » Mais eux, t'es comme ça, là. T'es en chair, puis un moment donné, Dieu rouvre la terre et ils descendent. La famille au complet, à cause du péché du Père. « Eux et tout ce qui leur appartenait, la terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. » Est-ce que c'est un jugement sévère? Hé, mais hein, c'est sévère. Il leur dit que le péché d'apostasie, c'est de cette nature-là que c'est. C'est cracher sur le Fils de Dieu. Deuxième point qu'on va regarder, c'est vraiment la gravité de l'apostasie dans les versets 28 et 29. Pourquoi il veut passer de... Là, tout à l'heure, on a parlé d'une escalier descendante. Là, il va parler d'une escalier montante en termes de gravité, en termes de rigueur. Il va dire, prenons l'exemple de comment l'Éternel jugeait les graves péchés de l'Ancien Testament. Et il dit, si Dieu jugeait ces graves péchés-là de cette façon-là, imaginez-vous, vous, comment vous allez le juger si vous crachez sur Christ. Hey, c'est épouvantable. Alors, il leur dit dans Hébreux 10, 28, « Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. » Alors, l'auteur veut démontrer que si Dieu a été si sévère pour certains péchés dans l'Ancien Testament, il le sera encore davantage pour ceux qui mépriseront la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. On va prendre un exemple de l'Ancien Testament parce qu'il nous dit « Celui qui a violé la loi de Moïse ». On va prendre un exemple que ceux qui la violaient, comment l'Éternel les traitait dans l'Ancien Testament. Deutéronome 13, versets 6 à 11. « Et c'était un péché, pas d'idolâtrie, d'incitation à l'idolâtrie. » C'est comme s'il y avait quelqu'un de l'Assemblée du peuple d'Israël qui allait voir les gens et disait « Hey, viens adorer tel Dieu, tel faux Dieu. Viens que nous autres. » Juste le fait de faire ça, ça méritait une punition extrêmement sévère. Deutéronome 13, verset 6 à 11. Dieu dit « Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, voyez-vous, ou ton ami, ça impliquait les personnes proches de toi. » Ton frère, ta sœur, ta mère, ton père, ton ami, que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant, allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes pères n'avez connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu ne l'épargneras pas, tu ne le couvriras pas. Voyez-vous, quand c'est nos amis et que c'est de la parenté, quelqu'un voudrait nous inciter à un pareil péché, là Dieu dit, tiens pas compte de tes liens d'amitié et d'amour envers lui. Et après ça, il dit dans le verset 9, mais tu le feras mourir. Imaginez-vous, votre frère, votre sœur, votre père, votre mère, votre meilleur ami, qui aurait commis le péché d'incitation, à l'idolâtrie. Voyez-vous le jugement que Dieu disait? Tu le feras mourir. Ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort et la main de tout le peuple ensuite. Voyez-vous ce qu'il disait? Il disait, non seulement il faut que tu ignores les liens d'amour et de parenté qu'il y a entre vous autres, mais il faut que ce soit toi qui garoche la première pierre. Ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, ton meilleur ami, qui faisait uniquement t'inciter à l'idolâtrie. Dieu disait que tu devais faire ça. Pas une petite similitude, c'est sévère. Verset 10, il dit, tu le lapideras. Les autres suivaient, mais il fallait que tu commences. Il fallait que ce soit toi qui commences. Et il mourra parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il en sera ainsi, afin que tout Israël entende et craigne, et que l'on ne commette plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Maintenant, on voit l'incitation. On va voir un autre exemple. Parce que quand il nous dit, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou trois témoins, on va voir maintenant le péché d'idolâtrie. Deutéronome 17, versets 2 à 6. Il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes que l'Éternel ton Dieu te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ton Dieu et transgressant son alliance, allant auprès d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, après le soleil, la lune ou toute l'armée des cieux, ce n'est point là ce que je vous ai commandé. Dès que tu en auras connaissance, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin des recherches. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise en Israël? Alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action, et tu le lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de deux ou de trois témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Quelle était la sagesse de Dieu qui se manifestait dans ce chapitre-là? Autrement dit, des personnes auraient pu essayer de régler leur compte en disant, lui, je n'aime pas affaire, je vais dire qu'ils m'ont incité à l'idolâtrie. En mettant Dieu, parce que quand vous regardez le chapitre Hébreux 10, 28, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. Pourquoi un témoin? Parce que quand il est question d'aller chercher quelqu'un, disons que tu serais assez méchant pour dire, ah, lui, il m'a incité pour le faire mourir. Mais aller chercher un deuxième témoin qui est prêt à embarquer dans ton histoire, puis un troisième témoin, c'est encore plus difficile. Alors, c'était une sagesse de Dieu pour pas que le peuple se serve des accusations semblables pour régler leur compte personnel. Et la gravité du péché est démontrée par un autre aspect. Autrement dit, Moïse, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dit « Regarde comment Dieu était sévère dans les péchés qui étaient commis dans l'Ancien Testament. » Et là, on a pris tantôt Nadab et Abihu, et on prend aussi les exemples d'incitation à l'idolâtrie et à l'idolâtrie. Puis là, il se sert de ça, il dit « Combien plus? » Alors là, il va leur démontrer comment le péché d'apostasie était de façon beaucoup plus grave que ces péchés-là de ces gens-là à cette époque-là. Pourquoi? Parce que si vous regardez le verset 29 attentivement, il y a un triple blasphème dans le verset 29. Il dit, alors après qu'il a eu dit, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou trois témoins, là il dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Qui? C'est qui le Fils de Dieu? Christ. Après ça, il dit, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance? Le Père, par lequel il a été sanctifié et qui a outragé, qui? L'Esprit de grâce. Triple blasphème. Il est en train de leur dire, ce péché-là est d'une gravité telle qu'il dépasse de beaucoup les péchés que ces gens-là ont fait dans l'Ancien Testament et qui avaient reçu un jugement si sévère. Et là, il leur dit, de quel pire châtiment? Autrement dit, le châtiment de ces gens-là va être beaucoup plus pire de ceux qu'on vient de voir. Nadab, Abihu et tout ça, Corée et tous ceux qui avaient incité à l'idolâtrie ou qui avaient commis l'idolâtrie. Il dit que le châtiment va être pire pour une triple raison, parce que dans le même verset, il y a un blasphème contre les trois personnes de la Trinité. Hey, c'est grave! C'est grave, pas à peu près. C'est le blasphème contre le Fils de Dieu, parce qu'on le voit par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez la gravité quand on foule quelque chose aux pieds. Disons que vous allez voir une scène, je ne sais pas, mais des musulmans qui prennent un drapeau américain. Tu vois là, toute la haine qu'il y a dans leur... Ils vont fouler un drapeau, mais quand ils foulent le morceau de tissu, dans le fond, c'est tous les citoyens américains. Fouler aux pieds, c'est la pire expression de mépris, de haine, de dégoût, de rejet que ces gens-là pouvaient faire. Ils ont foulé aux pieds la personne de Christ, et ça a été démontré qui était Christ dans l'Épître aux Hébreux. Et son œuvre aussi. Mais prendre ça, fouler ça aux pieds dans un accès de haine, il faut que ça soit un péché d'une gravité innommable. Alors, c'est l'expression d'un péché qui illustre une volonté plus forte en expression que le crucifiement lui-même. Le crucifiement, Christ dit, « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » L'apostasie, tu sais ce que tu fais, tu le mets en dessous de ton pied et tu dis, « Ça n'a aucune valeur pour moi. » Imaginez-vous, c'est un péché d'une terrible... Alors, fouler quelque chose aux pieds manifeste la volonté d'arracher Dieu de son trône, de le mépriser ouvertement et publiquement, de se moquer de sa personne et de son œuvre, et de vouloir l'asservir, le souiller, l'avilir. Tout ce qu'il y a de plus noble dans l'univers, toi, c'est exactement l'inverse que tu veux faire avec. Fouler le Fils de Dieu aux pieds. Mais il va encore plus loin, il dit, il y a une autre sorte de blasphème qui est impliqué dans l'apostasie finale, délibérée. C'est le blasphème contre Dieu, le Père. Il dit qu'il aura tenu pour profane le sang de l'Alliance. Si on lit dans 1 Jean, chapitre 2, verset 23, « Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, quiconque confesse le Fils a aussi le Père. » Alors, si tu mets le Fils en dessous de tes pieds, ça veut dire que tu mets le Père en dessous de tes pieds aussi. Et rejeter la personne et l'œuvre de Christ dans son office de sacrificateur, de roi et de prophète, c'est s'opposer au Père lui-même à cause de la décision. On parle de l'Alliance. L'Alliance éternelle, c'est la décision qui a été prise dans l'éternité entre Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, que le salut se devait de s'accomplir d'une certaine façon. Et eux, ils disent, « J'en veux pas ton salut. » Le blasphème contre le Saint-Esprit est vu dans la troisième partie. Il dit, « Et qui aura outragé l'Esprit. » Et c'est clair dans le contexte qu'on parle du Saint-Esprit parce qu'il y a un E majuscule. « Outragé l'Esprit de grâce. » Luc 12, verset 10 nous dit, « Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. » Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera point pardonné. Et qu'est-ce que le texte nous dit ici? Un outrage. Quand on parle d'un outrage au tribunal, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire un criminel de la pire espèce qui s'adresse au juge en le traitant de toutes sortes de noms qui n'ont pas d'allure. Mais ici, on ne parle pas d'un juge humain, là, qui peut y avoir une partie de vérité dans ce que le criminel dit au juge. Ça peut être vrai, des fois, jusqu'à un certain point. Mais ici, on parle de l'Esprit de grâce, on parle du Saint-Esprit, on parle de l'Esprit qui régénère, de l'Esprit qui conduit, qui sanctifie, qui purifie, qui fait bien d'autres choses encore. Il faudrait prendre toute l'œuvre du Saint-Esprit. Il dit « outragé », un outrage au Saint-Esprit. C'est vraiment l'expression de dire « on n'en veut pas tes histoires ». Alors, c'est grave. Dans Ésaïe 66, verset 2, ça nous dit « Car ma main a fait toutes ces choses, et c'est par moi que toutes ces choses ont eu leur être, dit l'Éternel. Mais à qui regarderai-je? À celui qui est affligé, qui a l'esprit brisé et qui tremble à ma parole. » On se devrait, comme chrétien, de trembler à la parole de Dieu. Quand Dieu nous dit des choses, c'est pesant. C'est d'une pesanteur qu'on ne peut même pas imaginer. Dieu dit qu'il se plaît à ceux qui tremblent à sa parole. Et partir du début d'Hébreux, aller jusqu'à 10-18, l'auteur a démontré avec une grande habileté, avec une grande sagesse, et démontré sans aucune possibilité que tu puisses dire qu'il y a une erreur là-dedans, a démontré qui était Christ dans sa personne et dans son œuvre. Et à quelque part, si tu ne trembles pas la parole de Dieu, ça veut dire que tu ne veux rien savoir de tout ça. Injurier et insulter volontairement, résolument et malicieusement le Saint-Esprit, c'est de ne pas reconnaître la grâce de Dieu. La grâce, c'est quelque chose qui nous a été donné, même si on dit, des fois ils disent immérité, moi j'aime aller plus loin, parce que c'est vrai, c'est démérité. On était des ennemis et Dieu est venu nous donner un cadeau d'une valeur inestimable et est venu nous la donner. C'est vraiment une faveur déméritée. Puis c'est comme si on dirait, ta faveur là, j'en veux pas. Alors, c'était de ne pas reconnaître la grâce de Dieu dans le fait que l'Esprit t'a régénéré, qu'il a éclairé ton âme, qu'il t'a convaincu de péché, qu'il t'a conduit à la croix, qu'il te dirige, qu'il t'enseigne et qu'il te sanctifie. C'est le mépris et le rejet de la plus abjecte manière. Tu ne peux pas aller plus bas que ça. Impossible. Alors, il ne faut pas se surprendre de la sévérité du jugement. La troisième point qu'on va regarder, c'est justement la sévérité qui est reliée à l'apostasie. À cause du caractère de Dieu, dans le verset 30, ça nous dit, « Car nous connaissons celui qui a dit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. » Quand on dit c'est une sévérité divine, parce que ça dit nous, c'est qui ça impliquait ça? Les croyants. Nous connaissons celui qui a dit. Une connaissance élevée et exaltée du caractère de Dieu moule nos cœurs et régule notre conduite. Ça, dites-vous une chose, s'il y a une vérité que je suis convaincu aujourd'hui, il n'y en a pas une, bien que je suis convaincu plus que ça. Ça nous dit, plus on va connaître qui Dieu est dans sa majesté, dans sa puissance, dans chacun de ses attributs qui sont infinis. On n'a pas d'idée. Jusqu'à quel point Dieu est saint, jusqu'à quel point Dieu est sage, Dieu est amour, Dieu est miséricorde. Infini, ça veut dire que même au ciel, quand on va être rendu là, toute l'éternité ne suffira pas pour aller au fond de sa grandeur. Dieu est grand. C'est inimaginable. Puis plus notre connaissance de sa personne, dans chacun de ses attributs, éventuellement, je pense qu'on va faire une série sur les attributs de Dieu en profondeur. Parce que ça nous montre le caractère de Dieu. Et tous les différents traits de son caractère sont infinis. Quand on parle de justice, on ne peut pas... C'est pas une justice infinie, un amour infini, une sagesse infinie, une miséricorde infinie, une grâce infinie. Et on pourrait prendre toute la liste comme ça. C'est ça, Dieu. Plus on va connaître son caractère, plus ça va mouler nos cœurs et plus ça va réguler notre conduite. On va prendre un exemple. On va prendre l'attribut de l'omniprésence. L'omniprésence, ça nous dit que Dieu est présent partout, en tout temps, dans nos vies. Dans la vie de tous. Tous. Imaginez-vous si vous seriez pleinement conscient, on est toujours partiellement, partie-bout, conscient de l'omniprésence de Dieu. C'est comme si vous vous en allez travailler, ceux qui travaillent, ceux qui sont à la retraite, ceux qui sont chez eux. Peu importe où ce que vous êtes, Dieu est toujours présent là où vous êtes. Il voit ce que vous faites, il entend ce que vous faites, vos gestes, vos pensées. L'omniprésence, là, si on était pleinement conscient que Dieu est toujours là quand on parle, quand on dit des choses, quand on pense des choses, pensez-vous que nos comportements changeraient? Tu sais, des fois, on se dit, si Jésus serait ici, ou si Jésus serait à notre table, ou si Jésus serait dans notre salon, ou dans notre cuisine... Est-ce que vous pensez que le couple, dans la journée, leur façon de se parler entre eux changerait? Est-ce que vous croyez que leur comportement changerait en toute chose? Mais oui, parce qu'on sera conscient qu'il est là, on sera conscient de sa présence. Mais il est toujours présent. C'est juste qu'on déconnecte à un moment donné. Mais imaginez-vous quand on dit une connaissance élevée et exaltée du caractère de Dieu, c'est quelqu'un qui aurait cette conscience-là à un niveau comme ça, mais en tout temps. Tu vivrais, là, quand on parle de crainte de Dieu, là, ce serait vraiment le cas, là, on craindrait Dieu. Mais si je vous dis que c'est possible de l'augmenter, votre crainte de Dieu, vous allez me répondre quoi? Ben oui, c'est possible. Mais il y a des moyens. Selon vous, c'est quoi les moyens? Prière, ça en est un. Ça, ça en est un autre. La parole de Dieu, si on la néglige. On ne peut pas augmenter et avoir une vision exaltée de Christ, de Dieu, le Père, de Dieu, le Saint-Esprit, si on néglige la Bible. Oubliez ça. Paul était très conscient de cela, il priait fervemment pour l'obtenir par grâce. Voyez-vous, dans Colossiens, chapitre 1, versets 9 à 10, Paul dit quelque chose d'important aux Colossiens. Il leur dit, « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier. » Autrement dit, il est en train de dire, « J'arrête pas de prier pour ça. » De prier pour vous et de demander... Donc, il précise qu'est-ce qu'il demande. Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Bien sûr, Dieu pourrait répondre à une pareille prière en faisant en sorte que la connaissance de la Bible serait infuse. Elle nous tomberait dessus, pouf, puis on n'aurait pas d'effort à faire. Mais ça ne marche pas de même. La connaissance de sa volonté va venir par l'étude des Écritures, par la lecture des Écritures, par la méditation des Écritures, par la mémorisation des Écritures. C'est de même qu'on commence à augmenter notre connaissance de Dieu. Quand on dit tantôt « augmenter notre... d'utiliser les moyens de grâce », vous en donnez un, parce que je sais qu'il est négligé de nos jours. Je l'ai négligé moi-même. Mais ce n'est pas une raison pour dire que je devrais continuer. Mémorisation de la parole de Dieu, c'est un moyen de grâce. Pourquoi que je peux dire que c'est un moyen de grâce? Parce que Dieu dit que si je le fais, ça va m'éloigner de l'iniquité. Vous avez vu ça dans le psaume 119? Celui qui met la parole, ça l'éloigne de l'iniquité. C'est un moyen de grâce, Dieu me l'a donné, mais si je l'utilise, puis que je la mémorise, la parole de Dieu, je vais éloigner le péché de ma vie. C'est un moyen. Mais combien de moyens comme ça l'Éternel met devant nous? Il en met tout un tas, toute une série, mais si on ne l'utilise pas, bien, on ne profite pas de la bénédiction qui est rattachée. Il dit « La connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu. » Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a deux sortes de connaissances en Colossiens 1, versets 9 et 10. Il prie pour que les gens obtiennent ça. Il y a une connaissance, c'est la connaissance de sa volonté. Comment je peux connaître la volonté de Dieu si ça ne s'est pas ouvert? Tous les jours. Et prendre toutes les choses que l'Éternel me dit de faire avec. Lire, écouter, étudier, mémoriser, méditer. C'est des commandements, c'est pas des sept temps de fallait, là. Alors, ça nous dit connaissance de sa volonté. Et ça nous dit aussi connaissance de Dieu. Il y a deux choses. La connaissance de sa volonté nous vient par les Écritures, et la connaissance de sa personne nous vient aussi par les Écritures, mais nous vient aussi par la prière. La prière, ça nous le dit, on communique avec Dieu, on s'essaye de s'approcher de lui de toutes sortes de façons, on lui demande toutes sortes de grâces pour nous, pour les autres. Et il y a bien d'autres moyens, assister à ses cultes, il y a plein de moyens de grâce que l'Éternel nous donne. Alors, il dit, Paul demande que à Dieu que l'augmentation de la connaissance se fasse sous deux chapitres. La connaissance de sa volonté, la Bible, et la connaissance de Dieu lui-même, ses attributs, son caractère, sa personne. Nous devons croître dans la connaissance de sa volonté dans la connaissance de sa personne. Étudier les attributs de Dieu et l'ensemble des Saintes Écritures avec obéissance conduira très certainement dans cette direction. Et là, je n'ai fait une petite liste, mais on pourrait aller bien plus loin que ça, dans chacun des attributs. Omnipotence absolue. Omnipotence, c'est la puissance, la toute-puissance de Dieu. Quand on dit « créer à partir du néant », vous essayerez ça pour le fun. Puis créer l'univers qu'il a créé, une parole, pouf, tout est là. C'est-tu de la puissance ou pas de la puissance? Quand Dieu nous dit qu'il est capable de prendre l'univers et de le rouler comme un manteau, il faut avoir une idée de la grandeur de l'univers si on veut être émerveillé devant ça. Dieu est omnipotent, tout puissant. Il n'y a rien qu'on ne peut pas lui demander qu'il n'est pas capable de faire. Ça, c'est un aspect. Son omniscience. Dieu sait toutes choses, sur tout, de toutes les époques, de tous les temps. Son omniprésence inévitable, comment qu'on voudra l'éviter, il est toujours là. Sa sainteté ineffable, le mot ineffable, ça veut dire que comment j'aurais le talent le plus grand pour parler de la sainteté de Dieu? Je suis un minus quand je parle de la sainteté de Dieu, c'est quelque chose qui nous dépasse énormément. La sainteté de Dieu, c'est pour ça qu'on a intérêt à demander à Dieu de nous donner, d'étudier sa parole et de se rapprocher de lui de manière à le connaître de plus en plus, de mieux en mieux. Parce que plus on va connaître Dieu, plus, comme on disait tout à l'heure, ça va mouler nos cœurs et plus ça va réguler nos vies. Sa véracité infaillible. Aujourd'hui, Dieu dit tout homme est menteur. Est-ce que vous êtes menteur? Il faut que vous le soyez parce que Dieu dit tout homme est menteur. On est tous des menteurs quelque part. Dieu dit qu'il n'y a rien qu'un qui ment jamais. Nous, quand on est chrétien, normalement, on devrait plus être des menteurs invétérés, comme on dit. Mais si vous regardez depuis le début de votre vie chrétienne, est-ce que ça peut arriver que vous n'ayez compté des petits? Aux yeux de Dieu, il n'y a rien de petit. Tout est gros, tout est énorme. Un seul péché, même ce qu'on considérait comme des petits mensonges, pour Dieu, ça vous mériterait d'être plongé vivant dans le lac de feu pour l'éternité. Pas des petites choses. Alors, il y a simplement une personne à qui on peut se fier toujours de tout ce qu'il dit. C'est Dieu. Alors, sa véracité, sa fidélité, on a parlé un matin du livre des Nombres. Malgré tous les péchés d'Israël, Dieu a quand même continué d'être fidèle envers son peuple. Et c'est la même chose aujourd'hui, malgré nos chutes, malgré nos misères, malgré tout ce qui se passe dans nos vies. Je ne parle pas de vivre volontairement dans le péché, là. Je parle malgré nos faiblesses. Dieu continue de nous être fidèle. Sa sagesse insondable. Quand on parle d'un décret, ça c'est vraiment, faut s'arrêter parce que le décret de Dieu, c'est tout ce qui était pour se passer dans l'univers au complet, dans tous les secteurs de la vie végétale, animale, minérale. Une seule pensée, un seul décret comprenait tout ce qu'il y a là-dedans de toutes les époques, de tous les temps. C'est inimaginable. Inimaginable. Et quand ça dit, sa sagesse est insondable, on ne peut pas aller au bout de ça. Et une sagesse, le mot sagesse, ça veut dire que tu es capable de concevoir quelque chose sans erreur. Peu importe ce que l'homme fait, il y a toujours des erreurs dans ce qu'il fait. Dieu, quand il fait quelque chose, dans un décret, il a inclus tellement de choses que le plus savant d'entre nous n'a pas connaissance vraiment de ce que c'est. Et il dit que lui a fait jamais d'erreur. Il ne fait jamais d'erreur. Son amour infini, sa justice inexorable, son immuabilité éternelle, son éternité. Et là, je n'ai pas passé toutes les... Plus on va connaître Dieu, plus on va connaître son caractère, plus on va... Alors, quand ça nous dit, car nous connaissons celui qui a dit, et là, il prend deux mots qui viennent de l'Ancien Testament pour parler de deux choses. Il dit, à moi la vengeance, la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. Deux choses là-dedans. Il dit, le Seigneur, c'est moi qui s'occupe de venger, puis c'est moi qui s'occupe de la rétribution. Mais la deuxième me fait peur un petit peu plus, parce qu'il dit, le Seigneur jugera son peuple. Son peuple, c'est nous. Alors, de le voir juger les païens, on est bien contents. Mais quand il nous dit qu'il va nous juger nous-mêmes, là, des fois, on est un petit peu moins contents. Et il nous dit, dans la partie, « Celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. » Cette partie du verset provient de Deutéronome 32, versets 35 et 36. Dans le verset 35, il dit « À moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. » Voyez-vous la connaissance des Écritures que celui qui écrivait l'Épître aux Hébreux, il citait des Écritures de l'Ancien Testament, quasiment mot pour mot, « À moi la vengeance et la rétribution. » Et l'Éternel jugera son peuple, mais dans le verset 36, il aura pitié de ses serviteurs en voyant que leur force est épuisée et qu'il n'y aura plus ni esclave, ni homme libre. Ce passage inspire de la crainte de deux manières. Dieu sera infiniment sévère envers les apostats quand il dit « À moi la vengeance et la rétribution. » Autrement dit, « Laissez-moi m'occuper de ça. » Mais après ça, il rajoute d'autres choses qui, là, il devrait nous faire trembler dans nos culottes. Dieu jugera son peuple. Il châtiera notre désobéissance. Dieu dit qu'il va châtier notre désobéissance. On a-tu des désobéissances dans nos vies? Mais on en a. Et dans le verset 31, il termine par quelque chose, un verset qui, lui aussi, a quelque chose à nous faire craindre. Hébreux 10, 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains d'un Dieu vivant. Pourquoi que c'est si terrible de tomber entre les mains d'un Dieu vivant? Parce que Dieu est vivant, mais est éternel. Je vais vous raconter une petite histoire très rapidement. Les papes, à l'époque du Moyen Âge, des fois, il y avait des chicanes entre eux. Et quand il y en avait un qui mourait, il l'enterrait. Et le pape qui prenait sa place, après, il faisait déterrer, puis il traînait dans les rues de Rome en arrière d'un cheval. Sa dépouille. Alors, voyez-vous, la haine allait plus loin que la mort. Mais dans le fond, l'être humain ne peut pas jamais aller plus loin que la mort. Comment qu'il l'aurait traîné? Il n'avait aucune vengeance, le gars, il est mort. Mais Dieu, vu qu'il est éternellement vivant, quand il voit que châtier quelqu'un, quand il se dit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant, parce que lui, il peut, sa punition peut aller plus loin que la mort. Un homme mortel ne peut amener sa vengeance au-delà de la mort physique. Il n'en est pas de même pour celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Proverbe, chapitre 1, verset 28. « Alors ils m'appelleront, je ne répondrai pas. Ils me chercheront, ils ne me trouveront pas. » Ézéchiel 8, 18. « Moi aussi, j'agirai avec fureur, mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. » Quelle est la leçon qu'on a à appliquer dans nos propres vies à partir de l'étude de ce texte-là? La première chose, l'apostasie est coupable. Ne péchons pas par présomption en négligeant les avertissements et l'utilisation des moyens de grâce que Dieu nous a donnés pour demeurer dans le chemin. Gardons un équilibre entre les doctrines jumelles de la préservation divine et de la responsabilité humaine. Préservation divine, Dieu nous dit que de toute éternité, il nous a choisis, il va nous rendre au bout. Mais si on met tout l'accent sur ce côté-là, c'est comme si on s'exclut, on exclut notre responsabilité. Et ça ne marche pas de même. Les deux sont ensemble, c'est jumelles et sont indissociables. Regardez bien ce que ça dit dans 2 Pierre 1, chapitre 5, versets 5 à 10. Moi, j'aime beaucoup ce verset-là, ce passage-là, parce qu'il nous enseigne quelque chose de très important. « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre, en anglais c'est « add », ajouter, pour joindre à votre foi la vertu. » Puis quand tu vas avoir la vertu, à la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Regardez bien ce qu'il nous dit dans le verset 8. Car si ces choses, encore là conditionnel, si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne le vous laisseront point, ni oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 9, « Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. » Verset 10, c'est le verset le plus important, « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. » Autrement dit, nous, on croit à l'élection de cette Église, mais la Bible nous dit que c'est à nous à affermir notre vocation, ça veut dire l'appel, à affermir votre appel et votre élection, et je me mets la conclusion, car en faisant cela, pas en pensant à cela, en faisant cela, ce qui était dit, là, vous ne broncherez jamais. Si on veut avoir une certitude absolue qu'on est sauvé, qu'on n'a plus aucun doute dans notre esprit, jamais, 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 il faut faire 2 Pierre 1, 5 à 10. Il faut toujours ajouter, il faut toujours ajouter. Et de le faire, il dit bien au verset 5, « Faites tous vos efforts. » Alors, ça implique des efforts. Alors, l'assurance ne vient qu'après l'utilisation sérieuse et régulière des moyens de grâce. Deuxième application, l'apostasie est grave. Surveillons et corrigeons tout pas dans cette direction. L'abandon ou la négligence des cultes personnels, la négligence des cultes familiaux, la négligence des cultes d'église, le manque de prière, le manque d'évangélisation, la négligence de nos devoirs envers la Bible, l'amour des frères, tout ça, ça fait partie des premiers petits pas qu'on fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne devient pas apostat pour autant, là. Mais ça fait partie des petits pas qui s'en vont dans cette direction-là. Il faut arrêter, il faut les corriger, il faut utiliser les moyens de grâce que Dieu nous donne. Troisième application, le jugement de l'apostasie est irréversible. Quand vous êtes rendu vraiment dans l'apostasie totale et entière, c'est irréversible. Tenons compte des avertissements de la Bible qui nous ont été donnés par Dieu lui-même pour nous aider à demeurer dans le chemin étroit et resserré. Que notre grand Dieu nous fortifie, nous éclaire et nous maintienne dans ses voies. Qu'il soit éternellement loué. Amen.